DW. Droits et libertés.
La menstruation est un processus au cours duquel l'utérus évacue du sang et des tissus par le vagin. C'est un processus naturel et sain chez les filles et les femmes en âge de procréer. Dans les pays occidentaux, le terme menstruation n'est plus très utilisé et l'on parle plutôt de règles. Voici la définition que l'on peut lire sur le site du FNUAP, le Fonds des Nations Unies pour la Population. J'ajoute qu'en Afrique francophone, on parle souvent de menstrue. Quel que soit le nom qu'on donne aux règles, et alors même qu'elles concernent plus de la moitié de la population humaine mondiale, pendant la majeure partie de la vie de ces individus, le sujet reste tabou dans de nombreuses régions du globe. Informer et réduire les déchets liés aux menstruations, on en parle dans quelques instants avec une ONG en Inde. Et dans la seconde partie de cette émission, notre invitée sera Nadine Machikou. Elle est camerounaise et rectrice adjointe de l'université Yaoundé 2. Vous l'entendrez évoquer la lutte des femmes pour l'égalité en droit, mais aussi une meilleure coopération avec la gente masculine. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. Pune, c'est une ville située dans la région du Maharashtra, dans l'ouest de l'Inde. Là-bas, une ONG a décidé d'informer les jeunes filles sur leurs règles dans le cadre scolaire. Et elle les aide aussi à trouver des protections périodiques respectueuses de l'environnement. À la tête de cette association, une jeune femme qui répond au nom de Radhika.
Je m'appelle Radhika Dhingra et je m'occupe d'une ONG qui s'appelle Badlav Social Reform Foundation.
Parmi les thèmes abordés par Radhika et son ONG, les menstruations, donc, qui en Inde aussi sont un sujet traditionnellement tabou, comme le raconte la mère de Radhika. À mon époque, dit-elle, les tabous étaient tels qu'on n'avait pas le droit de toucher certaines choses quand on avait nos règles. Tout ce que ma mère m'a dit, abonde cette collégienne, c'est que j'allais saigner chaque mois quand je serai grande.
Dans la plupart de nos foyers, les menstruations restent un tabou fort.
C'est pourquoi Radhika intervient aussi dans des classes pour sensibiliser les élèves.
Il va y avoir des changements dans votre corps. Certaines d'entre vous l'ont peut-être déjà remarqué. Pour les autres, ça viendra un peu plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de... Je veux vous entendre bien fort.
Et ce que répondent les élèves en chœur, c'est... Les règles. Radhika sort donc aussi dans la rue à la rencontre des personnes qui ramassent les ordures.
Je vais trier les déchets plus tard, les déchets secs et les déchets humides.
Est-ce que les gens ici marquent leurs déchets sanitaires d'un point rouge avant de vous les donner ?
Non.
Mais vous avez entendu parler de la campagne de point rouge ?
Oui, c'est pour les couches et les serviettes hygiéniques.
Anuradha Shinde travaille aussi en coopération avec l'ONG de Radhika.
Nous encourageons les femmes à essayer les produits que nous leur présentons. Ils durent au moins 3 ans, ils sont lavables, vous économisez de l'argent et vous ne produisez pas de déchets polluants. Nous expliquons donc que c'est bon pour l'environnement et pour la santé. Les serviettes hygiéniques conventionnelles contiennent des produits chimiques qui provoquent souvent des démangeaisons et d'autres problèmes de peau.
J'ai l'impression que les parents savent davantage de choses maintenant. Avant, ils ne parlaient jamais de ce sujet.
Et à propos de parents, voici ce qu'en dit le père de Radhika.
La plupart des gens trouvent cela étrange lorsque je leur dis ce que fait Radhika. Ils me disent que je devrais la marier, qu'elle est assez âgée pour ça et qu'il faudrait lui en parler. Mais lorsqu'ils voient son travail et l'impact qu'elle a, ils comprennent que c'est bien ce qu'elle fait.
Il y a une énorme prise de conscience environnementale dans les pays occidentaux, en Inde et dans les pays asiatiques. Mais j'ai l'impression que le contexte est totalement différent. et on ne peut pas avoir de solution globale pour un problème local. C'est ce sur quoi je voulais vraiment me concentrer, tout en veillant à ce que l'Inde prenne des mesures pour lutter contre le changement climatique et les problèmes environnementaux. Mais il faut aussi prendre en compte les problèmes sociaux auxquels l'Inde est confrontée, c'est capital. Allez, tous ensemble.
Et encore une fois, la réponse, c'est... les règles. Vous écoutez bien Droits et Libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Nous partons maintenant au Cameroun, où Nadine Machiku est rectrice adjointe de l'université Yaoundé 2 et professeure de sciences politiques. Nadine Machiku s'intéresse tout particulièrement aux revendications des femmes, leur combat pour trouver enfin leur place pleine et entière dans des sociétés où bien souvent ce sont les hommes et les hommes seuls qui ont édicté les règles du jeu.
Bien sûr, il s'agit toujours de l'ordre patriarcal dominant qui est producteur d'oppression systémique et d'inégalité. Sur toute la face de la Terre, en fait, les femmes sont globalement en situation d'inégalité. Donc, la revendication, de ce point de vue, de toutes les femmes, c'est une revendication qui est plus d'égalité en tout lieu, que la distinction entre la parole féminine et la parole masculine, la distinction entre la capacité féminine et la capacité masculine, etc., ben que cette distinction-là ne soit pas fondée en réalité sur des stéréotypes.
Au fil des siècles, l'idée a été répandue sur la planète que les différences biologiques entre les hommes et les femmes légitimaient des rapports sociaux de domination des uns sur les autres. Et c'est vrai encore aujourd'hui dans de nombreux endroits.
Que ce soit sur le terrain de l'emploi, sur le terrain académique, sur le terrain de la santé, dans tous les domaines, il y a une condition féminine qui est une condition marquée essentiellement par des rapports inégalitaires. Au Cameroun, plus de 50% de la population, je pense 50,6% de la population est constituée de femmes. C'est presque 13 millions de la population. Et cet avantage démographique ne se traduit pas par une représentativité conséquente en fait des femmes dans tous les espaces où se trouve du pouvoir, que ce soit le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir administratif, le pouvoir militaire, le pouvoir traditionnel, le pouvoir religieux, etc., etc.
La santé procréative est un domaine qui marque par exemple les inégalités de genre. Elle est liée à l'éducation et au manque d'autonomisation économique des femmes. Au Cameroun, raconte Nadine Machiku, les femmes ont la chance d'avoir un meilleur accès à l'éducation que dans d'autres pays comparables, mais cela n'est pas vrai sur l'ensemble du territoire de la même façon. Dans l'extrême nord, par exemple, le taux de scolarisation des filles est plus faible que dans d'autres régions du pays.
Au-delà de la question de l'autonomisation économique, au-delà de la question des violences, sexistes, les violences sexuelles, etc. C'est aussi la question de l'accès en fait aux espaces de pouvoir. La tendance lourde de notre pays, c'est le durcissement du plafond de verre. Parce que même s'il y a eu un accès des femmes à un certain nombre d'institutions, de positions institutionnelles dans les ministères, dans la haute fonction administrative, il reste quand même que, même y compris dans des espaces juridiques, des instances juridictionnelles, il reste quand même que largement, ce taux n'est pas suffisant.
En politique, des quotas ont été fixés à 30% de participation féminine au Cameroun, mais pour Nadine Machiku, c'est un peu une illusion. Elle raconte que d'une élection sénatoriale à l'autre, par exemple, la proportion d'élus EES n'est pas la même. Les quotas ne sont pas appliqués dans tous les scrutins avec la même rigueur.
On a vu lors des élections régionales, des élections à la tête des conseils régionaux, que on n'a eu aucune femme présidente de région en 2020. On a vu, par exemple, pour les sénatoriales, on est passé de 26 femmes, c'est-à-dire lors de la législature de 2018 à 2023, à 26 femmes, soit une augmentation de 23%. Mais je dis, il faut très clairement dire que ces évolutions-là ne sont pas des évolutions qui sont de nature à remplir le principe du quota.
Nadine Machikou affirme que les femmes occidentales et celles du Sud global, comme on dit, notamment en Afrique, n'ont pas les mêmes revendications, ni d'ailleurs d'un pays à l'autre. Néanmoins, les femmes du monde entier ont toutes les mêmes intérêts convergents, si ce n'est commun, à savoir de se libérer de l'oppression et de vivre en bonne intelligence et sur un pied d'égalité avec les hommes.
Beaucoup d'hommes se sentent menacés lorsque on leur parle des droits des femmes. Et certains hommes réclament d'ailleurs leur 8 mars à eux. Certains confrontent au discours sur les violences faites aux femmes, l'idée que les hommes aussi seraient victimes de violences de la part des femmes, ce qui est quand même une incongruité factuelle. C'est une erreur de penser que le fait de protéger les femmes, le fait de promouvoir les femmes menace les hommes ou entraînerait ipso facto la perte de leur place, etc. Le fait de se mobiliser, je dis cela à partir de la notion de masculinité positive. He for she, le principe, c'est de dire que les femmes ont besoin des hommes. Les femmes sont disposées à porter leur part du fagot, mais pour qu'elles portent leur part du fagot, il faut qu'elles soient moins vulnérables. Donc, il faut donc se mobiliser pour les libérer de tous ces carcans qui les brident, qui les empêchent de vivre avec tout leur potentiel. Donc, les hommes doivent se mobiliser pour libérer cette force créatrice, cette énergie, pour que nos familles soient plus épanouies, que nos sociétés, nos communautés se portent mieux, nos enfants soient en meilleure santé, que nos communautés se portent mieux, sont plus épanouies, sont plus résilientes, lorsque les femmes sont elles-mêmes épanouies. Donc, c'est un débat qu'il faut adresser aux hommes. Les femmes ont besoin de leur soutien pour que nous ayons des sociétés qui sont beaucoup plus égalitaires.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Sonia Falnikar, Johanna Gottschalk et Elisabeth Hassen. Merci aussi bien sûr à Nadine Machikou pour les sons de cette émission. Si vous souhaitez la réécouter, la partager ou vous abonner au podcast, rendez-vous sur dw.com/français ou la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.